Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de Fréquence Sillé. Nous sommes le mardi 28 avril. Dans ce journal, nous aurons un invité. Il s'agit de Dominique Dumaux, qui est le président de l'Association des maires ruraux de la Sarthe. Et on va parler d'une motion qui a été prise lors de l'Assemblée Générale, en fait, de l'Association des maires ruraux de France, qui a eu lieu les 18 et 19 avril à Paris. Une motion prise pour la sauvegarde des libertés local, on en parle tout de suite après la météo et le flash. Eh bien, le temps est partagé aujourd'hui entre nuages et éclaircies et les températures sont fraîches. Hein. Comptez seulement 11 degrés à Ciel-Guillaume, mais 15 quand même dès que l'on arrive du côté du Mans. Une légère brise souffle d'ouest et demain mercredi, le temps ressemblera à celui d'aujourd'hui. Voilà, plutôt variable, avec un peu plus de nuages quand même en Haute-Sarthe et même de la pluie du côté du pays d'Alençon. Dans l'actualité de ce mardi, le chômage a augmenté de 0,9% en Sarthe en mars par rapport au mois précédent. Il y a 29 130 demandeurs d'emploi dans le département. C'est un résultat plutôt satisfaisant par rapport aux autres départements des Pays de la Loire, puisque le chômage en Mayenne est en augmentation de 1,5% et il est de 1% pour le Maine-et-Loire. Par contre, la Loire-Atlantique et la Vendée demeurent stables avec une hausse de 0,1%. Hier, les élus du conseil départemental récemment installés ont voté le montant de leurs indemnités. Au bout de 45 minutes, les 42 conseillers avaient tous voté à l'unanimité le règlement intérieur et le montant des indemnités qui seront gelées sur 6 ans. Alors, un conseiller ou une conseillère gagnera ainsi 1 858 € par mois. Il ou elle recevra 2 043 € s'il fait partie de la commission permanente, 2 600 s'il est vice-président ou vice-présidente, et 4 558 € pour le président, qui est donc Dominique Lemener. Et puis, sachez que l'ambiance de travail a été bonne lors de cette réunion plutôt rapide, express, nous dit Le Maine Libre. Et Christophe Chaudin, chef de file des élus de gauche, donc de l'opposition départementale, a remarqué dès l'ouverture de la session que cette première réunion de la commission des finances s'est déroulée d'une manière très positive. Et j'espère que cela continuera ainsi, a-t-il déclaré. Cette nouvelle assemblée compte une majorité de nouveaux élus et visiblement, l'ambiance est au travail, donc plus question de perdre du temps. On apprend et on veut agir, a glissé l'un d'eux hier. Voilà, dans l'information également aujourd'hui, il y a une réunion importante du côté du Mans. C'est l'ADMR qui organise aujourd'hui un café de l'emploi à partir de 14h du côté de la salle Le Royal au 409 avenue Félix Geneslet. L'objectif est de ce job dating est de rapprocher les besoins de recrutement de l'ADMR et les candidats expérimentés et désireux de travailler dans le secteur du service à la personne. Sachez que ce secteur embauche. Le candidat doit avoir au moins 6 mois d'expérience en qualité d'aide à domicile auprès d'un public fragilisé, personnes âgées, adultes ou enfants en situation de handicap. Enfin, il doit également être mobile et posséder son propre véhicule. Donc rendez-vous 14h, salle Le Royal au Mans pour ce café emploi organisé par l'ADMR, donc l'association d'aide à domicile en milieu rural, mais pas seulement, parce que ça se passe aussi du côté du Mans. Voilà, et puis on va parler d'un autre job dating qui a lieu du côté d'Evron. Il a lieu au lycée lycée d'Orion et d'Evron. C'est demain, mercredi 29 avril, donc de 15h à 17h30. Et sachez que c'est une rencontre employeur-salarié pour des contrats en alternance sur 2 ans concernant les formations bac pro. professionnel bio-industrie de transformation, et puis le BTS Anna Biotech, voilà, connaissance de la matière et du vivant, qualité, analyse microbiologique, recherche et développement. Voilà, rendez-vous donc demain du côté du lycée d'Orion de 15h à 17h30 pour peut-être prendre contact avec une entreprise pour faire sa formation en alternance, donc au lycée et en entreprise.
Votre région, votre département, votre canton, votre commune, leurs actualités, c'est sur Fréquencier 97.9 FM.
Voilà, 12h08 dans le journal, on va laisser passer une petite page musicale et on retrouve tout de suite après notre invité Dominique Dumaux, le président de l'association des maires ruraux de la Sarthe, et on va écouter, eh bien, Imagine Dragons, ça s'appelle Tiptoe.
Votre région, votre département, votre canton, votre commune, leurs actualités, c'est sur Fréquencier 97.9 FM.
Voilà, nous sommes en ligne dans le journal, en direct, avec le président de l'association des maires ruraux de la Sarthe, Dominique Dumaux, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes maire de Fercé-sur-Sarthe, et je l'ai dit, vous êtes président des maires ruraux de la Sarthe, et depuis le week-end dernier, enfin depuis le 19 avril, vous êtes le vice-président national, en fait, de cette association. Donc, puisque les 18 et les 19 avril ont eu lieu l'Assemblée Générale de l'Association Nationale, donc, des maires ruraux de France. Qu'est-ce que ça change pour vous, en fait?
Encore un peu moins de temps libre pour moi, c'est la première chose. C'est aussi pour moi un vrai plaisir. Ça prouve qu'au niveau national, ils ont reconnu mon engagement et le cœur que j'avais à défendre les petites communes et la conviction que j'avais qu'elles étaient le cœur de notre démocratie était très très importante pour nos territoires. Et donc ça va me permettre aussi de me retrouver face à des gens qui font la loi, pas forcément des intermédiaires, et ça aura aussi cette importance pour essayer de convaincre.
J'ai vu que vous aviez aussi on vous avait donné donc une mission, c'est de développer les associations de maires ruraux dans la région des Pays de la Loire, parce que en fait il n'existe pas d'associations en Vendée, en Loire-Atlantique et en Mayenne, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est l'association des maires ruraux de France. Elle existe depuis 43 ans au niveau national. Elle est présente dans 62 départements, mais plutôt sur l'est, nord-est et sud-est de la France. Et en Pays de la Loire, il y a le Maine-et-Loire qui a une association de maires ruraux qui est très ancienne, mais autrement donc en Sarthe depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Et donc dans ces trois autres départements, Vendée, Mayenne et Loire-Atlantique, l'idée c'est de fédérer les maires qui adhèrent directement au national et leur donner l'envie de créer une association départementale pour peser au niveau de leur département et porter la parole des petites communes dans les différentes instances qui existent.
Alors, on peut rappeler qu'en Sarthe, il y a 85 communes qui donc sont adhérentes.
Voilà, c'est ça. Donc, ouais. Tous les ans, on a une quinzaine de communes supplémentaires qui nous rejoignent, parce que ça fait que 4 ans que nous existons. Ça nous donne la conviction, que notre parole est reconnue par certains élus, et ça nous aide aussi à nous faire entendre, parce que plus le nombre d'adhérents est important, plus nous sommes capables d'avoir une voix qui porte, bien évidemment.
Et puis, je pense que le fait d'avoir été nommé, en fait, au bureau national, c'est un peu la conséquence de vos actions, vous le disiez, parce que régulièrement, vous publiez des communiqués, donc vous faites du lobbying, en fait, pour défendre la ruralité, l'actualité du monde rural, et notamment ces petites communes que vous défendez, et qui, selon ce qui ressort de la motion prise donc lors de cette Assemblée Générale à Paris, le 19 avril, cette motion sur la sauvegarde des libertés locales. Quel est le contenu de cette motion?
Mais parce que on voit bien que depuis de très longtemps, que les gouvernements soient de gauche ou de droite, les cadres dans les ministères, eux, restent en place, donc c'est souvent eux qui portent ce type d'idée. Et on voit bien que l'idée, c'est vraiment de vider de sa substance la commune. Mais la commune de petite taille, 200 habitants, habitants, mais également aujourd'hui, et c'est un peu nouveau, la commune de 2000-3000 habitants. Le législateur ne peut pas supprimer la commune en tant que telle parce qu'elle est dans la Constitution et que c'est très difficile parce qu'il faut avoir une forte majorité pour modifier la Constitution qui, pour mémoire, a ses communes, départements et régions, qui sont les seules trois entités qui existent au niveau constitutionnel. Donc l'idée, c'est de vider peu à peu de son sens, hein, de sa substance, la commune, en poussant ses capacités d'agir vers l'intercommunalité, tout en prenant bien garde de ne surtout pas dire que la commune va disparaître, parce que déjà, ça correspond pas à la volonté des citoyens, qui y sont très attachés, et puis la Constitution fait qu'elle existe. Mais malgré tout, petit à petit, il avance ses pions et on voit apparaître de nouvelles charges, hein, qui sont menées contre les petits villages et les habitants qui y vivent, bien évidemment. Et on voit que des compétences sont de plus en plus centrées vers l'intercommunalité. Mais on voit aussi apparaître l'idée de d'élire au suffrage universel direct le conseiller communautaire, alors que la communauté de communes, c'est dans son nom, c'est une association de communes pour porter des projets à plusieurs qu'on ne serait pas capable de porter seul. Enfin voilà, on voit que petit à petit, d'année en année, il n'y a pas une année où on n'a pas une attaque en règle, on essaie de vider de sa substance la commune, et ça nous préoccupe dans le sens où les citoyens n'en ont pas conscience, et alors qu'ils y sont très attachés, leur territoire, et puis ce sera forcément demain synonyme de perte de capacité de produire au sein d'un petit territoire la matière pour le soutien à la vie associative, etc. Et ça nous préoccupe vraiment.
Alors, on l'a vu, hein, c'est le projet de loi qui s'appelle NOTRe, c'est ça ? NOTRe ?
Oui, Nouvelle Organisation Territoriale.
D'accord. Oui. Alors, dans ce projet de loi, il y a plein de choses qui, réduction progressive de la clause générale de compétences des communes, augmentation du nombre de compétences obligatoires et facultatives des intercommunalités, donc beaucoup plus de pouvoir, en fait, aux intercommunalités, aux communautés de communes, organisation de la mise sous tutelle de la commune par l'intercommunalité, donc plein de choses, en fait, vous le dites bien sûr, qui appauvrissent bien sûr le pouvoir des petites communes, mais une question, en quoi en fait la petite commune, je dirais, pourquoi ce combat, est-ce que c'est important, est-ce bien la peine en fait d'avoir autant de moyens, et finalement peut-être mieux mutualiser les moyens sur un territoire, en gardant bien sûr ces petites communes, mais mutualiser des moyens pour permettre des économies. Et c'est vrai que la tendance aujourd'hui est tous économies.
Alors, vous avez raison, la question doit être posée, et il faut surtout y répondre pour un peu éclaircir vos auditeurs, mais il faut savoir que aujourd'hui, par exemple, vous parlez de mutualisation, c'est assez intéressant. C'est forcément le sujet d'actualité parce que toutes les intercommunalités ont l'obligation de porter un calendrier de mutualisation et de le construire et de le créer et de le proposer en préfecture avant la fin de l'année. Donc, par exemple, c'est un sujet où on se retrouve donc entre maires autour d'une table. Souvent, on a demandé à un cabinet d'études extérieures de venir nous soutenir dans la démarche. Donc, un cabinet d'études qui coûte de l'argent, déjà, ça commence par là, et qui va commencer son discours par nous dire, et c'est du vécu, c'est ce que moi j'ai entendu en tant que maire d'une petite commune lorsqu'on s'est réunis pour mettre en place cette mutualisation, de nous dire, la mutualisation ne vous permettra pas d'économiser de l'argent, c'est une fausse idée, ça ne fonctionnera pas, on est obligé de le faire, on va donc trouver des pistes de mutualisation, mais en aucun cas on gagnera de l'argent, ou si ça devait arriver, c'est un peu comme les régions d'ailleurs, ce sera dans 20 ou 30 ans. Donc ça c'est la première chose. Et derrière ce mot mutualisation, ce qu'on n'entend pas, apparaît derrière une problématique claire, c'est que ça éloigne forcément le service du citoyen. Aujourd'hui, une intercommunalité, et demain, ce sera encore pire si elle passe à 20 000 habitants, qui sera composée par endroit de territoire avec plus de 50 communes, comment voulez-vous que la préoccupation de la commune de 300 habitants, qui souhaite simplement remettre aux normes sa petite salle associative pour permettre aux habitants, aux aînés ruraux ou aux jeunes de se retrouver, comment pourra-t-elle être entendue et avoir la capacité de peser dans les débats de manière à ce qu'on lui accorde des crédits? C'est toute cette question, elle est assez simple. Comment demain, une association dans une petite commune qui, au jour d'aujourd'hui, allait voir son conseil municipal pour lui demander une aide financière pour un projet spécifique. Comment demain, quand elle sera noyée à travers plus d'une centaine ou 200 associations sur un territoire de 20 000 habitants, sera-t-elle en capacité d'être écoutée? Forcément, ce type de problème clairement se posera et forcément, nous aurons de nombreux citoyens qui auront ce sentiment d'abandon qui existe déjà, qui progressera et qui sera catastrophique pour notre démocratie. C'est ça notre inquiétude. Après que l'on se regroupe ensemble, pour comme ça a été fait pour les déchets ménagers, pour la compétence jeunesse, pour la petite enfance, pour le tourisme, bien évidemment que nous sommes pour, parce que les petites communes seules ne peuvent pas le faire. Mais par contre, derrière, on a de vrais problèmes sur la voirie en agglomération, sur l'école, sur le dernier commerce, des énergies que nous trouvons dans nos territoires, parce que ce sont des projets qui sont portés par les habitants de proximité, qui demain n'existeront plus et qui seront catastrophiques pour nos communes rurales. C'est pour ça que nous sommes convaincus que oui, certains projets doivent être faits en commun, mais d'autres sont des services de proximité qui n'existeront évidemment plus le jour où on sera réunis dans des vastes intercommunalités, et ça sera dramatique pour notre proximité et pour la vie que nous connaissons actuellement dans le village.
Il y a pas mal de sujets aussi en milieu rural qu'on pourrait évoquer. Enfin voilà, c'est toujours les services publics en fait qui reviennent, qui disparaissent. Enfin en même temps, quelquefois on installe les services publics et puis personne n'y va. Enfin mais il faut un minimum, je pense. Donc les services publics c'est important. Quand on voit par exemple l'explication un peu du vote extrême, on se dit voilà, les gens sont abandonnés en fait en milieu rural, parce qu'on n'explique pas tellement le vote FN en milieu rural, on se l'explique mal, on se l'explique notamment parce que les gens se sentent abandonnés en fait, hein. C'est aussi un combat que vous menez en fait, un combat derrière qui est aussi le combat de vivre ensemble, de politique en fait.
Mais oui, parce que alors bien évidemment, il y a multiples raisons qui font que les gens soit ne vont pas voter, surtout d'abord, c'est la première chose, s'abstiennent ou s'inscrivent même pas sur les listes électorales, ne vont pas voter ou votent blanc, parce que c'est déjà la majorité des gens fait ça. Et après, ceux qui se sont déplacés pour voter, finalement, il y en a plus que 4 sur 10 en âge de voter. 2 sur 4 ont quasiment glissé un bulletin d'extrême dans l'urne. Donc, on pense que le sentiment d'abandon est une des raisons qui ont poussé à ce type de vote. Il y en a bien d'autres. Il y a le manque de confiance envers le politique, où on est convaincu que voter aujourd'hui ne nous permettra pas de mieux vivre demain. C'est dans certaines têtes, ça. Il y a la peur du lendemain, l'emploi, la mondialisation, le sentiment qu'on n'a plus la capacité de porter son avenir entre ses mains. Enfin, voilà. Mais on est aussi, nous, à l'Association des maires ruraux, convaincu que le sentiment d'abandon est important et contribue à ce vote extrême. Je vais vous donner un exemple assez simple et qui à mon avis correspond à des tas de gens qui vivent en zone rurale. On a créé donc des déchetteries pour permettre aux gens de ramener leurs déchets pour éviter qu'ils soient traités comme auparavant ou enfouis, etc., et pour permettre une valorisation, donc très bien. Et on y a incorporé depuis quelque temps les déchets verts. Et on a interdit de brûler ces déchets dans la campagne. En soi, sur le papier, moi qui suis un fervent défenseur de l'environnement, je trouve ça sain. Mais derrière, quand on creuse un peu, on se rend compte que ça pose d'énormes problèmes à des tas de gens. Des gens modestes qui n'ont qu'une voiturette parce qu'ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas les capacités intellectuelles de le passer, ou ils l'ont perdu, ou alors ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Les gens âgés qui n'ont plus forcément de famille à proximité parce que maintenant les familles se dispersent pour les aider. Tous ces gens-là n'ont pas de moyens d'emmener leurs déchets vers la déchetterie, ou dépendent de leurs voisins, ou n'ont pas de solution. On a, à travers une loi qui était à la base bonne et saine et nécessaire, créer des citoyens à deux vitesses, ceux qui ont les capacités de se déplacer et d'aller vers la déchetterie, d'emmener leurs déchets verts, et les autres, qui dépendent de leurs voisins, qui dépendent des services de la commune en allant voir le maire, en lui demandant de faire le nécessaire, et qui se sentent coupés de la démarche et de l'évolution de notre société. Et ça, cet exemple des déchets verts, évidemment, ça concerne une infime quantité de personnes, mais ça, plus d'autres actions, d'autres logiques qui sont mises en place, font que le citoyen se sent abandonné. Mmh. Et ce que nous vivons aujourd'hui pour ces déchets verts, par exemple, qui est l'exemple qui est venu à l'esprit là, on le vivra de nouveau pour d'autres situations et pour d'autres compétences. Parce qu'à partir du moment où une compétence quitte la commune et va vers l'intercommunalité, elle s'éloigne du citoyen. Au moins géographiquement, parce que on n'a pas la capacité de créer le service dans chaque commune après, par souci d'économie, ou pour éviter que ça coûte plus cher, surtout parce qu'on ne fait pas forcément d'économie, mais on maintient le coût, mais on l'éloigne. Et cet éloignement, à notre avis, contribue à ce sentiment d'abandon qu'ont les citoyens, plus bien évidemment le nombre de nombreuses classes qui ferment dans nos zones rurales, plus des contraintes administratives qui viennent là-dessus. Et alors que le citoyen rural paye à peu près les mêmes impôts et la même TVA qu'un citoyen en zone urbaine ou dans une grande ville, il a le sentiment de financer des services qu'il n'a plus. Et ça nous préoccupe, et notre inquiétude surtout, c'est que on voit que la démarche du législateur, c'est d'aggraver cette situation, de nouveau de progresser, de faire passer des compétences vers l'intercommunalité, donc d'éloigner encore un peu plus le service du citoyen vers une zone centrale, et ça, on risque encore un peu plus d'aggraver ce vote de contestation qui nous inquiète et qui nous fait mal lorsqu'on fait le dépouillement dans nos villages après les élections.
Voilà. Donc on va peut-être en terminer là. Dire que ce projet de loi là, le oui. Nôtre, passera en seconde lecture au Parlement et que l'AMRF, donc l'Association des maires ruraux de France, et vous-même donc Dominique Dumont en Sarthe aussi, vous allez agir avec des actions d'information auprès de la population, des médias. Donc c'est en l'occurrence avec Fréquencier aujourd'hui, des autres élus ruraux et des parlementaires, et vous ferez des propositions concrètes donc, pour s'opposer donc au passage de cette loi qui a priori va passer. Enfin, on imagine mal comment elle ne passera pas, mais voilà, vous allez évidemment contre ce projet de loi. Voilà.
Elle était en première lecture donc au mois d'avril là, à l'Assemblée nationale. Elle sera en deuxième lecture le 14 mai de mémoire au Sénat, puis elle est pour un retour vers l'Assemblée nationale et ensuite certainement qu'il y aura une navette. Elle risque d'être, nous espérons en tout cas qu'elle sera modifiée, car en fait l'ensemble des associations d'élus au niveau national sont interpellées par leurs adhérents qui leur disent « Attendez, bougez-vous un peu, parce que là ça commence à devenir vraiment problématique, et là vraiment ils vont un peu trop loin dans la démarche ». Donc nous, notre choix au niveau associatif, c'est de s'associer avec les autres associations d'élus si elles le souhaitent, au contraire, parce qu'à plusieurs on sera plus fort, hein. C'est pour l'intercommunalité, ça peut aussi fonctionner, mais on va aussi essayer de mobiliser nos citoyens dans nos communes au niveau national pour essayer de leur faire comprendre les dangers qu'il y a pour cette loi et pour leur avenir dans les communes dans lesquelles ils vivent, souvent ils sont très attachés, et on va faire plier un peu le gouvernement et lui faire marche arrière pour qu'on n'aille pas aussi loin qu'il le souhaite.
Voilà, en tout cas le message est passé, en tout cas du côté de la Haute-Sarthe et de Ciel-Guillaume et voilà, de tout ce grand territoire du nord-ouest de la Sarthe. On vous remercie beaucoup donc Dominique Dumont. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des maires ruraux de la Sarthe, et depuis quelques jours, vous êtes vice-président en fait de l'Association nationale des maires ruraux de France. Voilà, et vous allez agir au niveau national. On vous remercie d'être intervenu sur Fréquencier et on vous souhaite une très bonne journée.
Merci à vous de nous avoir permis de nous exprimer sur votre antenne.
C'est le but. Merci à vous. Au revoir.